Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. On parle aujourd'hui de la fin des temps avec, pour intervenant, que vous allez découvrir dans un instant, Vincent Delphy, auteur du livre « Jésus, des mystères de la Bible au temps de confusion », un livre de près de 100 chapitres et 672 pages dans lequel il aborde les grands problèmes de notre humanité au regard de la Sainte Écriture. A tout de suite. Face à une situation mondiale de crise, de pandémie, d'afflux de migrants, de guerre internationale, de tremblements de terre, d'inondations, d'éruptions volcaniques, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'accumulation de scandales à l'intérieur de l'Église, eh bien aujourd'hui, on parle dans cet épisode du jour de la fin des temps avec mon invité, auteur de cet ouvrage, Jésus, des mystères de la Bible au temps de confusion. Bonjour Vincent Delphy.
Bonjour Nathalie.
Alors, on est dans des temps trouble, on est en pleine confusion. Quel regard portez-vous sur ce temps ?
Eh bien, si vous avez très bien résumé d'emblée la situation de notre pays et du monde, mais d'emblée, je pense qu'il faudrait dissiper un malentendu récurrent, à savoir que la fin des temps n'est pas la fin du monde. Ah oui, il y a entre les deux le règne de 1000 ans, c'est dans l'Apocalypse. Et donc, au terme du règne de 1000 ans, c'est là qu'il y a le jugement dernier. Mais avant, il y a la grande tribulation dont il est parlé très nettement dans l'évangile selon saint Matthieu. Je cite de mémoire, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a point paru depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'en paraîtra jamais plus. Et si ces jours n'avait été abrégé, aucune créature ne serait sauvée. Donc, le premier constat de vous-même, vous voyez, si des créatures sont sauvées, c'est que ça n'est pas la fin du monde. Voilà. Et on poursuit, ils feront des prodiges au point d'abuser les élus eux-mêmes, s'il était possible. Ils feront des prodiges que Dieu permettra. Il faut que l'homme aille au bout de ses erreurs parce qu'il a été suffisamment prévenu. Il faut qu'il aille au bout de ses erreurs pour en être guéri. Ce que dit un petit peu Mélanie Calvat, la petite bergère de la Salette. On n'aura pas cru au surnaturel divin. Oui, on sera pris dans les filets du surnaturel diabolique. Donc il faut s'attendre à ce que l'Antéchrist, qui exprime le mystère d'iniquité, bien face des prodiges qui ébranleront la foi de nombreux croyants, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Article 675, vous allez vérifier, avant l'avènement du Christ, l'Église passera par une épreuve qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Et donc, il est question aussi qu'on apportera une solution apparente à tous les mystères, mais au prix de l'apostasie de la vérité. C'est le mystère d'iniquité.
Quelle est, au fond, la grande stratégie de l'Antichrist, hein, puisque vous le nommez ?
Bien, je voudrais préciser le second point qui est récurrent. Jésus, c'est pour préciser, bien entendu, la stratégie de l'Antichrist. Mais Jésus ne revient pas dans la chair. Il revient à la fin du monde, oui, sans avoir affaire au péché. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Je cite là aussi de mémoire. De même que le destin des hommes est de mourir une seule fois, de même le Christ s'est offert une seule fois en ayant affaire au péché, en prenant notre péché. Et il se manifestera une seconde fois, mais sans avoir affaire au péché, c'est-à-dire sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire, comme il est dit, ce sera le jugement dernier. Mais là, nous allons vers la fin des temps, c'est-à-dire nous allons récolter les fruits de ce que nous n'avons pas semé, que nous aurions dû semer.
On entend oui. aussi les fruits d'une désobéissance.
D'une ?
Désobéissance.
Exactement. Bien sûr, on est fermé à la parole de Dieu. Et on parlait tout à l'heure du surnaturel, mais bon, qui croit vraiment aujourd'hui, on peut se poser.
On est fermé au surnaturel ?
Ben, lorsque la petite bergère de la Salette nous dit qu'on n'aura pas cru au surnaturel divin, c'est déjà quand même le milieu du 19e siècle. Hein. Et aujourd'hui, depuis, que s'est-il passé? Vous voyez, lorsque la Vierge Marie dit à Medjugorje, on a oublié qu'avec la prière et le jeûne, on peut arrêter les guerres, suspendre les lois naturelles. Qui le croit? Qui le croit, vraiment? C'est la question. Ouais, il faut laisser y répondre, peut-être. Et donc, la stratégie de l'Antéchrist, donc, puisque Jésus ne revient pas dans la chair, il a tout accompli dans la chair, il nous était impossible de rejoindre Dieu. Le plus beau cadeau qu'il ait pu nous faire, c'est d'entrer dans sa propre création pour l'enseigner de l'intérieur, non pas avec des livres, mais avec sa vie. Nous sommes obligés de tourner le regard vers sa vie. Et lorsque nous contemplons la croix qui est au bout de son sacrifice, car il n'y a pas d'amour sans sacrifice, ben nous contemplons la croix avec gratitude. Ce n'est pas un instrument de torture et de masochisme. Non, pas du tout. Tout ce qu'on entend aujourd'hui encore dans les milieux bien-pensants. Voilà, c'est... Si nous avions un livre, bien, nous ferions comme dans certaines religions. Tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il n'y a plus de marge pour l'amour. Et c'est ce que, d'ailleurs, Jésus dit ceci du sabbat. Il dit, alors que le sabbat était sacré, ô combien sacré pour les Juifs, « Si votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, n'irez-vous pas l'en retirer ?» C'est toute la question. L'amour, oui. C'est l'amour. Mais vous savez, aujourd'hui, on est devenus des intellos. Et il faut un préalable de connaissance à l'amour. Mais non, l'amour, c'est spontané. C'est la prière directe, alors qu'on voit aujourd'hui toute forme de méditation. Et la Vierge dit non, ce sont des œuvres purement humaines. La vraie méditation, c'est quand on parle directement avec Dieu. Alors, Jésus nous a appris les prières, la prière formelle que nous disons, notre Père. Mais lorsque nous sommes habitués à prier, et le rosaire, comme la Vierge le demande avec insistance dans toutes les apparitions, et depuis le 19e siècle, eh bien, nous entrons dans une forme d'oraison permanente. Nous parlons directement. Il vaut mieux un seul Ave Maria dit avec le cœur, vraiment, que mille avec la bouche, et voilà, simplement pour satisfaire un besoin. Voilà. Non. Là, nous sommes devenus des intellos. Il n'y a pas de préalable à l'amour. Et quand j'entends, et que je sais, hélas, qu'il y a des moines, oui, des moines, bénédictins, qui vont méditer avec des bouddhistes, je me pose des questions, car il n'est pas de position, il n'est pas de posture, il n'est pas d'asana, comme on dit, qui puisse permettre d'intensifier la prière. La prière, c'est spontané, c'est immédiat, debout, couché, malade, agonisant même. Pensez à tant de... Ben je pense à Mère Teresa, tout simplement. C'est en s'oubliant qu'on devient soi. Mais aujourd'hui, il n'est question que d'épanouissement personnel sous toutes ses formes. Alors là, c'est des stages... Toutes sortes de stages, on va vous proposer, et qui n'a pas un petit problème.
Stages techniques, par... hein, on multiplie, voilà. Hein, voilà, on est en pleine confusion. Hein.
Mais on finit par devenir, on devient temps. Observateur de soi-même. C'est en s'oubliant qu'on devient soi. Voilà, si on pouvait se le dire, et faire confiance à la spontanéité de l'amour. Je me rappelle, lorsque j'étais enfant, le curé de mon village, il y avait encore des confessionnaux. C'est pas hier. Et donc, le prêtre me dit, mon petit, quand tu seras dans une situation difficile, demande-toi ce qu'aurait fait Jésus à ta place. Et tu auras la réponse tout de suite. Ah, elle n'est pas forcément facile, tu sais, parce que tu vas te trouver des excuses. Bon, tu vas me prendre un peu de temps, on va voir. Hein, bon, on va se préparer. Non, mais tu sauras très bien. Tu vois, si tu penses à Jésus, tu auras ta réponse tout de suite. Et c'est ça, la spontanéité de l'amour. Mais alors, on tourne en dérision parfois la foi du charbonnier. Mais il y a une foi, le charbonnier, je ne sais pas s'il est noir vraiment, hein, si noir que ça, vous voyez. Bon, mais voilà, si on peut comprendre qu'il faut se débarrasser de tous ces préalables de connaissance, non, il n'y a pas de préalable à l'amour. Voyez, je pense à ma... Pardon, là je vais citer encore un exemple, c'est mon père. Une nuit de Noël, il revenait du cinéma avec mon père, c'était pas après la guerre. Et donc, au bord du canal, une voiture était tombée. Et mon père a plongé dans le canal et il a retiré quatre personnes. Je peux vous dire que ma mère avait peur. Oui. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Je ne sais pas s'il avait réfléchi à tout ce qu'il risquait. Peut-être il avait déjà mangé, fait un bon repas, je ne sais pas. Hein, voilà. Mais voilà, c'est ça, la spontanéité de l'amour. Ben, c'est là où on devient vraiment chrétien et quand on arrive à prier vraiment avec foi pour les ennemis. Parce que si on prie pour la famille et pour les amis, bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est facile, mais prier vraiment avec amour pour les ennemis, c'est là où on s'élève. Et vraiment, on progresse, là, oui, on progresse, réellement. Voilà, je crois que là, déjà, est l'essentiel. Et alors, pour la stratégie de l'Antéchrist, maintenant, au niveau mondial, parce qu'il va se présenter comme le Christ, vous comprenez bien. Donc, il faut que il puisse réaliser deux plans. Alors, il y a le plan politique et il y a le plan spirituel. Le plan politique, c'est... Mais les deux sont confondus, réellement. Hein. Pour un chrétien, il n'y a même plus de différence, hein, certainement. Si vous aviez parlé avec n'importe lequel des saints, il n'aurait pas vu la différence. Mais l'Antéchrist va devoir unifier toutes les idéologies mondiales. Le communisme, le capitalisme, les réconcilier, mais il va réussir. Il parlera bien mieux que certaines de nos instances religieuses, vous voyez ce que je veux dire?
Donc il
Qui
sera...
sont un petit
il
peu
connaît
assoupies.
bien la stratégie, il prépare bien, il sera séduisant.
Absolument, il parlera un langage d'amour,
Et il sera
mais
capable
d'amour.
de séduire de nombreux chrétiens.
Mais oui, mais beaucoup, beaucoup, parce qu'il va parler un langage de liberté. Mais au nom de la liberté, on peut tout excuser
Et
aujourd'hui.
vous avez parlé de l'amour, il va parler aussi ce langage universel de l'amour.
Mais bien sûr, mais alors déjà, il va réconcilier. Alors pour séduire, il va réaliser tout, donc le communisme, le capitalisme, et naturellement préserver le patrimoine écologique dans une redistribution équitable de toutes les ressources mondiales. Ça sera le paradis terrestre, croyez-moi, mais il va être convaincant. Et là, on voit des incroyants qui vont le suivre et qui vont découvrir le Christ qui est l'autre, voilà.
Quels seront les premiers signes, Vincent Delphi, pour
Mais les faux
le
prodiges, les
reconnaître l'Antichrist?
ah ben, ça va être très difficile, justement. Très, très difficile, il ne faut pas surestimer, parce qu'il est préparé déjà. Il est préparé. Mais imaginez, d'abord, on va parler des religions orientales. Il va falloir, pour les religions orientales, donc, qu'il soit la réincarnation. Alors, il sera pour les Japonais Myroku Bosatsu, pour les Hindous, il sera le Kali Avatara, pour les Bouddhistes, Maitreya. Tout ça converge dans le New Age où le Christ n'est qu'une fonction initiatique. Nous pouvons tous devenir Christ. D'ailleurs, l'ascension, ce sont des initiations. Hein, la résurrection aussi, c'est une initiation. Et ça rejoint aussi la franc-maçonnerie. Je pense au rituel écossais avec 33 degrés. C'est l'âge de la mort du Christ. Les francs-maçons ne croient pas au saint, hein, ni les protestants d'ailleurs. Mais le 29e degré, c'est Grand Écossais de Saint-André. C'est le rituel écossais de Saint-André. Pourquoi Saint-André? Ben, tout simplement parce que André est le frère de Pierre. Donc nous, nous avons choisi Pierre, mais André, mais c'est la meilleure traduction, Andros, aner, Andros, l'homme d'Adam, l'homme. Donc on a choisi l'homme par rapport à Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a reconnu le Fils de Dieu. Mais là, c'est l'homme dans sa splendeur. Et quand on dit que le chiffre de la bête, celui de l'Antéchrist, c'est 666, mais c'est l'accomplissement humain sur le plan de la création, si vous voulez. C'est le sixième jour, la création s'achève. Le septième jour, Dieu se repose. Donc c'est 6 sur le chiffre des dizaines, des centaines, au-delà, l'unité chiffre, dizaines et centaines, 666, l'accomplissement dans son extension extrême, voilà. Et donc, il doit arriver à séduire ceux qui croient en la réincarnation. Et vous allez me dire, et l'islam dans ce cas-là. Mais attention, dans l'islam, Jésus est l'annonce de l'heure. Dans le Coran, Jésus n'est pas passé par la crucifixion. Ouais. Il a été élevé au ciel directement. Et ça n'est pas dit dans le Coran, mais ce sont les hadiths et la sira, c'est-à-dire la biographie à la fois de Mahomet et les paroles de ses témoins. Donc, Jésus revient sur terre. Il revient sur terre. Il ne se réincarne pas puisqu'il était monté au ciel et élevé comme Élie, si vous voulez. Il revient sur terre. Il se marie. Il a des enfants. Il règne pendant 40 ans. Il combat le Dajjal, qui est le menteur. Et puis, il est enterré à Médine. Il meurt cette fois. Et il va juger les chrétiens qui n'auront pas reconnu le Coran ni Mahomet. Voilà. On attend ce Jésus-là. Donc, l'antéchrist est parfaitement conséquent, puisque Jésus est le Christ réincarné. Donc, c'est Jésus revenu sur terre aussi pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les Juifs? Bien, pour les Juifs, j'ai oublié de dire peut-être tout de même que entre chiites et sunnites, il y a une petite différence, c'est que les sunnites y ajoutent Al-Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé par Allah, donc qui lui, ce qui n'empêche qu'ils reconnaissent aussi Jésus qui revient sur terre. Et on peut se demander quelle est la part de l'un et de l'autre d'ailleurs, puisque Jésus combat le Dajjal, mais le Mahdi aussi. Bon, bref, toujours est-il que Jésus est revenu. Et donc, bien entendu, l'antéchrist qui va présenter tous les signes du Christ va être convaincant. Est-ce que ce sera le Mahdi? Mais à Téhéran, on prie depuis déjà plus de 20 ans pour hâter la venue du Mahdi. Vous voyez? Et mais les Juifs aussi. Les Juifs, le Machiav, va venir très bientôt. Et ce qui fait que d'ailleurs, le conflit se durcit. Le conflit israélo-palestinien se durcit. Ni l'un ni l'autre n'est prêt à céder. Et ce conflit se transporte chez nous, évidemment. Bien entendu, nous en voyons les suites, les conséquences.
Voilà. Donc, vous parlez un peu et vous donnez un peu quelques signes qui pourront alerter ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui ont le regard aussi tourné dans cette verticalité au fond de la croix. Donc, restons éveillés, restons dans la prière aussi pour discerner au bon moment l'arrivée de cet antichrist.
Alors,
on est dans ce temps de l'apostasie, Vincent Delphi?
Absolument.
Donc ce temps
absolument.
De l'apostasie qui est le signe de l'arrivée de l'antichrist.
Mais
on
je pense, alors je ne l'ai lu chez aucun mystique, mais j'ai le sentiment que l'antichrist montrera ses plaies. Il montrera ses stigmates pour dire que
il sera capable
est terminé.
De singer de,
c'est terminé. Aujourd'hui, c'est la liberté absolue. Ben, au nom de la liberté, on peut tout promettre, hein, la liberté. Mais la liberté, ça n'est qu'un cadre. Il faut qu'il y ait un moteur à l'intérieur de ce cadre.
Et puis la liberté, au nom de qui, au nom de quoi?
Mais pensez, justement, c'est toute la suite du bouddhisme aussi qui vient chez nous, qui se réadapte aussi. Mais chez les bouddhistes, la loi du dharma, tout attachement humain est productif de souffrance. Et donc, voyez ce que cela signifie. L'enfant lui-même n'est plus le fruit de l'amour du couple, en raison de la réincarnation. Et d'ailleurs, si on parlait de l'éveil du Bouddha, peut-être on en parlera.
On peut en reparler peut-être dans la
voilà,
suite.
Voilà, si vous voulez. Oui, parce qu'il faut quand même.
Il faut éclairer un peu. Hein.
Pardon ?
Il faut éclairer, voilà. Ceux et celles qui vous écoutent hein, dans
oui,
cette
bien
émission.
Sûr.
Je vous propose de vous retrouver dans un instant, le temps d'une plage musicale pour ce Vivante Église. Je rappelle un peu l'intitulé de cette émission du jour, la fin des temps. Et puis vous avez vous-même rappelé, Vincent Delphi, que la fin des temps n'est pas cette fin du monde. Et puis je rappelle que vous êtes aussi auteur d'un livre que l'on peut se procurer, Jésus, des mystères de la Bible au temps de confusion.
Voilà. Merci Nathalie.
À tout de suite.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église sur le thème de la fin des temps qui n'est pas la fin du monde, le Christ est ressuscité et je reçois au micro pour intervenant Vincent Delphi, auteur d'un livre, un gros ouvrage de près de 672 pages, Jésus des mystères de la Bible au temps de confusion. Vous abordez les grandes problématiques au fond de notre humanité aujourd'hui, puis au regard toujours, et ça c'est important, de la Sainte Écriture. On revient, vous n'avez pas terminé. Juste avant cette plage musicale, sur la situation, le bouddhisme et Bouddha.
Oui, vous m'y ramenez. Oui, on parlait de la loi du dharma. Tout attachement humain est productif de souffrance. Ben, Bouddha avait vécu une vie dorée dans son palais. Hein. C'était un palais, oui, fils d'un roi. Et il a fait à 29 ans une sortie dans la ville. Il a rencontré un malade, un mourant, un ermite, etc. Bon, bref, un mort. Tout ça n'était pas très gai. Il rentre dans son palais et sa femme, Prajapati, qui était enceinte, vient de mettre au monde son fils. Et on vient le lui annoncer. Et c'est là le véritable éveil du Bouddha. En réalité, que se passe-t-il ? Raoula est né, dit-il. On vient de forger mes chairs, mes chaînes. Mes fers qui m'attachent à ce monde. Et là, illico, il scelle son coursier, Kananka, et il s'enfuit. Il traverse le gynécée, où les femmes qui étaient pour l'intendance de ses bons plaisirs lui sont image de mort, et il fuit. Et il va mener une vie hérémétique, bon, je passe sur tous les épisodes, pour aboutir au parc des gazelles, à Bénarès, où il y a ce fameux serment, non moins de toutes tes souffrances, etc. Donc, le bouddhisme qui a influencé le New Age et qui influence à travers le yoga et tous les phénomènes aujourd'hui qui se rejoignent d'épanouissement personnel, voyez, où on cherche dans une forme de méditation, mais une méditation sans Dieu. Et sachant que par ailleurs, l'hindouisme aussi bien que dans le bouddhisme, c'est le polythéisme. Le Dalai Lama croit en plusieurs dieux, hein, et les polythéistes. Bien entendu, il faut bien comprendre ça. Et donc, les dés sont pipés, si on peut dire. Mais cela a influencé. Voilà. Et donc, cette situation a influencé le New Age, où la réincarnation est présente particulièrement dans le monde du spectacle. Mais au-delà, puisque j'avais discuté avec une catéchiste, je lui avais dit, mais c'est effrayant de voir qu'il y a des chrétiennes, dont une qui avait des responsabilités, qui croyaient à la réincarnation. Elle m'a répondu, mais 30% des catholiques croient à la réincarnation. Et je vous parle d'il y a longtemps déjà.
Je pense que le pourcentage des 30%
donc, ça veut
a
dire
augmenté.
Que le chiffre a dû augmenter. Et puis surtout l'indifférentisme, le relativisme et la liberté absolue qui fait que ça sera, le pivot de l'antéchrist, la liberté, au nom de la liberté.
Donc ça, c'est un des grands signes.
Ben, la liberté... Ben, ça a abouti à contester l'autorité, bien entendu. Et une inversion des valeurs. On pourrait citer 1000 exemples, vous en avez cité tout au début de l'émission, mais nous y sommes. Je ne vais pas les donner parce que ça serait peut-être même trop facile, mais on les voit autour de nous. Et des fois, on est gêné parce que c'est nous, catholiques, qui d'ailleurs, je voudrais avertir sur l'interreligieux et l'œcuménisme. C'est très difficile parce qu'on est mal à l'aise. On est mal à l'aise parce que, comme dit Jean-Paul II dans Redemptor Hominis, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de véritable œcuménisme et véritable relation interreligieuse au détriment de la vérité. Ouais. Mais vous savez ce qu'a dit Saint Paul. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et l'oreille leur démangeant, ils se donneront des maîtres à foison et ils se détourneront de la vérité pour se tourner vers les fables. En grec, le mot fable, c'est mythos, les mythes. Alors, pensez aux mythes qu'on retrouve dans la psychologie, dans la psychanalyse, etc. Vous voyez, les archétypes, et bon, je ne vais pas entrer dans un cours là-dessus, mais voilà, au détriment de la vérité. Ce qu'on disait au tout départ. Mais Jésus, c'est... Il n'y a pas de livre, il n'y a pas... j'allais dire, il n'y a pas de théorie, mais oui, il enseigne, bien entendu. Et qui le croit vraiment aujourd'hui? On peut se poser des problèmes tellement les écritures elles-mêmes sont remises en cause. La vie des mystiques elle-même est remise en cause. C'est assez triste. Et finalement, notre charité, on oublie d'ailleurs que tous les grands idéaux sociaux, humanitaires, caritatifs, sont nés dans des pays chrétiens, d'une pensée chrétienne qui a été par la suite laïcisée. Mais partout où il y a notion de liberté, d'égalité, de justice, c'est dans les pays chrétiens. Vous voyez, même par inversement, si vous voulez, on comprend que le féminisme n'aurait pu naître ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme. D'ailleurs, le Dalai Lama lui-même est très misogyne. Il s'est fait reprendre plusieurs fois. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le Coran, il y a suffisamment, malgré les traductions édulcorées d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais voilà, nous en sommes là aujourd'hui.
Alors, donc vous dressez un tableau hein, rapidement dans ce Vivante Église d'aujourd'hui. Quel est, dans cette fin des temps, dans les temps que nous traversons, le temps du monde, le temps aussi de la France, quelle est la situation de notre France, Vincent Delphi?
Alors, la France a été gratifiée, mais de tant de grâces à travers les siècles. Et ce n'est pas pour rien que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a dit « France, fille aînée de l'Église, mais éducatrice des nations ». Très beau titre, mais regardez les grâces qu'elle a eues depuis le début.
Vous pensez aux apparitions de la Vierge Marie en France?
Ah oui, mais depuis le début. Alors, c'est le scapulaire du Mont Carmel, hein. Le rosaire, les apparitions du Sacré-Cœur, l'Immaculée Conception proclamée à Lourdes. Mais c'est énorme, vous voyez, c'est toujours au fondement même de la prière, de la foi, ben voilà.
Alors je sais que vous avez travaillé aussi sur cette fin des temps, cette fin du monde, mais surtout cette fin des temps en lien aussi avec les Écritures et aussi en lien avec les apparitions en France, les apparitions mariales. Alors quels sont les liens entre toutes ces apparitions? Vous avez parlé de Lourdes avec oui. l'Immaculée Conception, oui. On peut parler de la rue du Bac à Paris, de Fatima ou de la Salette. Qu'en est-il?
Alors si vous voulez bien, on va reprendre les apparitions du 19e siècle qui sont liées, puisque l'Immaculée Conception, bien que la Vierge ait proclamé et donné ce nom à Lourdes, d'abord, l'apparition du 26 novembre 1830 à Paris, dans la capitale de la France. La Vierge Marie, c'est la troisième apparition. Il y en a une le 6 juin, il y en a une dans la nuit du 18 au 19 juillet, fête ancienne de Saint-Vincent de Paul, où elle a annoncé de graves épreuves pour la France et au-delà pour le monde. Et donc, le 26 novembre, elle remet la fameuse médaille miraculeuse avec la prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Très simple, direct. Donc, c'est déjà l'Immaculée Conception qui est en route, hein, « Ô Marie conçue sans péché », qui amènera 24 ans plus tard la reconnaissance de l'Immaculée Conception. Mais, attention, la Vierge Marie se présente sur le globe du monde, le serpent sous ses pieds, ce qui ramène à la prophétie de la Genèse, lorsque Dieu s'adresse au serpent, au tentateur, et qui lui dit, en parlant de la femme et de la race de la femme, « Tu la viseras au talon, elle t'écrasera la tête. » Mais c'est ce que nous voyons qui est sur la face principale de la première, la verre de la médaille, et au revers, il y a le tracé de la médaille miraculeuse. La seule médaille, d'ailleurs, que la Vierge ait donnée au monde. Il y en a bien d'autres qui ont de la valeur parce qu'elles sont en gratitude pour les apparitions. Mais là, c'est la Vierge elle-même qui a voulu la donner avec cette prière. Et c'est indissociable. Nous avons le devoir de la prier. Elle est sur le globe du monde et les mains ouvertes avec les rayons des grâces qu'elle distribue, le serpent sur ses pieds. Et c'est là où ce détail ne doit pas être relégué aux oubliettes, c'est que les rayons qui partent de ses mains tombent avec plus d'abondance encore sur le mot France, tracé sur la partie supérieure du globe. Donc la France, on voit bien le rôle qu'elle a dans ce combat de la femme contre le serpent, l'antique dragon de la Genèse, comme il est dit. Oui, voilà. Et donc, nous passons de là à Lourdes, et il y a un cran de plus. Puisque nous avons dit, 1854, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, mais à Lourdes, lorsque on demande à Bernadette qu'elle demande elle-même le nom à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie lui répond dans le patois bigourdan, « Que soy ero immaculada concepciu ?»« Que je suis ?» C'est intraduisible en français, sauf lourdeur. Hein, bon. « Je suis bien cette Immaculée. » Elle dit « ero » et non pas l'Immaculada. Lorsqu'elle parle avec d'autres personnes, Bernadette, l'Immaculada, elle dit. Là, il y a l'article démonstratif, un peu. Ero Immaculado Concezio. Que soy ero Immaculado. C'est-à-dire que, en plus, le que, c'est une affirmation. Alors, la Vierge a été conçue sans péché, comme elle l'a dit plus avant, mais elle se retrouvait dans les conditions d'Ève, d'Adam et Ève, qui aussi ont été conçus sans péché. Mais la Vierge Marie aurait pu faillir, contrairement à ce que disent certains théologiens. C'est parce qu'elle n'a pas failli qu'elle peut dire « je suis ». Et ce « je suis » qui l'a fait entrer en quelque sorte dans l'éternité. « Je suis ». Et en même temps, les grâces qui vont avec. Elle intercède pour nous. Et sur la médaille miraculeuse, effectivement, c'est la prophétie du vieillard Siméon, les deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Ce qui va raviver là, d'ailleurs la dévotion au Sacré-Cœur, puisqu'il y a le cœur de Jésus couronné d'épines et le cœur de Marie transpercé du clève. C'est la prophétie du vieillard Siméon. On voit, cet enfant sera un signe en but à la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme afin que soient révélées les pensées de nombreux cœurs. Voilà. Comment sont-ils révélés? On peut se poser la question. Mais la réponse, elle est là en même temps. Dans la médaille miraculeuse et la croix, bien la croix, le M de Marie, l'initiale, est associé à la croix et il y a les 12 étoiles autour qui nous ramènent à la vision du chapitre 12 de l'Apocalypse, le verset 1, le signe de la femme céleste dans le ciel, revêtue de soleil, la lune sous ses pieds et couronnée de 12 étoiles. Alors la lune sous ses pieds, c'est équivalent par opposition au fait qu'elle est revêtue de lumière aux ténèbres. D'ailleurs, dans les représentations anciennes, dès le Moyen-Âge, on a représenté le jugement dernier. Du côté des damnés, des réprouvés, il y a la lune, luna. Et du côté des élus, il y a sol, le soleil. Voyez. Donc la lune sous ses pieds, ça équivaut au serpent sous ses pieds. Voyez. Voilà. Et donc, à Lourdes, dans le temps du carême, la Vierge dit « pénitence, pénitence », elle le dit à sainte Bernadette, « allez baiser la terre pour la conversion des pécheurs ». Pénitence, pénitence. C'était le 24 février.
Et cette date est importante, du 24 février 1858.
Absolument, absolument.
Car elle est en lien aussi avec une autre date
absolument.
Plus récente et importante, du 24 février 2022.
Oui, mais alors on va passer par Fatima. Parce que Fatima se crée en trois parties.
Je me permets, nous allons inviter les auditeurs qui ont suivi cette émission de Vivante Église, car c'était un premier épisode, c'était une première partie sur ce thème de la fin du monde. Vincent Delphi, je vais vous proposer de vous retrouver la semaine prochaine dans cette même émission pour une seconde partie, une suite sur ce thème de la fin des temps, en lien aussi avec une lecture. Vous avez parlé de notre pays, de cette France fille aînée de l'Église, avec ses nombreuses grâces, et en particulier toutes ces visites de la Mère de Dieu, de la Vierge Marie, dans de nombreux lieux tels que Lourdes. Et la semaine prochaine, on poursuit. Hein, voilà, Vincent Delphi. Et on va se diriger du côté donc de Fatima, au Portugal, pour relire avec vous, lire les événements de notre temps d'aujourd'hui, de notre monde, en lien avec des apparitions, bien sûr. Soyons prudents et raisonnables, en lien avec des apparitions reconnues par la Sainte Église catholique. Vous avez écrit un livre que je conseille, « Jésus, des mystères de la Bible au temps de confusion », un livre riche avec de nombreux chapitres, donc un livre à se procurer. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.